Samedi dernier, le 13 février, le collectif de soutien aux personnes sans papiers a organisé un parloir sauvage devant le CRA, le centre de rétention administrative de Rennes-Saint-Jacques. Cette action, elle faisait suite à la tentative de suicide d'un homme le 2 février dans ce même centre de rétention administrative. Encore aujourd'hui hospitalisé, il a été sauvé par ses camarades de cellule. Ce n'est pas la première fois que ça arrive au CRA de Rennes-Saint-Jacques. En décembre 2019, un homme s'était donné la mort et ça en dit long sur les conditions de détention dans ces centres de rétention administrative. Pour en parler avec nous aujourd'hui, je reçois Gabriel Jarrier, membre du collectif de soutien aux personnes sans papier, à l'origine de l'action Parloir Sauvage qui avait lieu ce week-end. Bonjour Gabriel.
Bonjour.
Alors avant de parler de l'action de ce week-end, j'aimerais en guise de préambule revenir un peu sur les termes que l'on va employer. Déjà, qu'est-ce que c'est un CRA, donc un centre de rétention administrative, qui sont les gens que l'on peut retrouver enfermés là-bas et comment est-ce qu'ils se retrouvent dans ces centres?
Alors un centre de rétention administrative, c'est une sorte de sas entre le séjour en France et l'expulsion. C'est un lieu où, depuis les années 80, et c'est les socialistes qui ont créé ce concept, c'est Mitterrand, en 83, qui crée ce concept du centre de rétention administrative, qui crée donc ces lieux d'enfermement qui sont distincts donc des centres de détention, pour permettre à l'administration française, donc aux préfectures, d'organiser qu'ils appellent l'éloignement, ce que nous, en termes militants, on va plutôt appeler l'expulsion, des personnes qui n'ont pas le droit au séjour en France, donc les personnes sans papier. Ces personnes, elles ont des profils très divers et des nationalités aussi diverses. Ça peut être soit des personnes qui sont venues en France avec ou sans visa, sans papier, sans droit au séjour, et qui ont peut-être demandé l'asile et ne l'ont pas obtenu, ou qui ont demandé un titre de séjour ou au titre de différents motifs et ne l'ont pas obtenu. Donc la France leur dit « on ne veut plus de vous », elle leur assigne une obligation à quitter le territoire français, au QTF, et à partir de là, les personnes peuvent se retrouver enfermées au centre de rétention pendant maximum 90 jours. Et ces centres, ils sont au nombre de 25 en France, et voilà, il y a des capacités différentes. Celui de Rennes existe depuis 2007 et on peut y enfermer jusqu'à 60 personnes.
D'accord. Et justement, vous parliez d'OQTF. Est-ce que lorsqu'une personne est visée par une OQTF, donc une obligation de quitter le territoire français, est-ce que c'est forcément synonyme d'incarcération dans un CRA?
Non. Il y a plusieurs manières de priver de liberté des personnes qui sont en passe d'être expulsées ou que la France essaye d'expulser. Elle n'y arrive pas toujours. Et il y a notamment les assignations à résidence. Donc, il s'agit de relier la personne à un lieu de vie en se disant que on la garde sous la main, donc la personne doit régulièrement venir signer, pointer dans un commissariat ou une gendarmerie pour prouver qu'elle est toujours dans le coin et que le jour où on pourra l'expulser, on pourra le faire. Mais voilà, les gens ne sont pas forcément enfermés dans un centre de rétention.
Justement, hormis le fait que les personnes enfermées dans un centre de rétention administrative n'ont commis aucun crime, c'est quoi en fait finalement la différence avec une prison?
Il y a effectivement cette grosse différence juridique qui, je pense, est au cœur de la grande colère que les retenus ont, parce qu'ils le répètent tout le temps. Nous, on fait des parloirs depuis 2007, depuis l'ouverture de ce centre à Rennes, et ce qui revient tout le temps, c'est « on n'a rien fait, pourquoi on est enfermé ?» Et effectivement, ne pas avoir de papier, c'est pas un délit. Donc il y a ça qui joue. Et puis ensuite, je pense que on joue un petit peu sur les mots. C'est pas de la détention, c'est de la rétention. Donc on les retient juste le temps d'eux. Sauf que 90 jours, 3 mois maximum d'enfermement, c'est très long. Et que, par exemple, au CRA de Rennes, et c'est à peu près les mêmes chiffres au niveau national, l'administration ne réussit qu'à expulser un tiers des personnes enfermées, parce que ça pose plein de questions administratives, notamment avec le pays d'origine des personnes. Je ne parle même pas de la situation depuis un an avec le Covid, mais on prive des gens de liberté alors même qu'on souvent on peut pas et on peut pas les expulser. Donc c'est une politique assez hypocrite et il n'y a pas, pour les personnes retenues, certaines là qu'on a vues au parloir samedi en ont témoigné, c'est pas la première fois qu'on entend ces témoignages, il n'y a pas énormément de différence avec la prison. Et même, beaucoup disent que la prison, c'est mieux, parce qu'en prison, au moins, on a des activités, et que là, au centre de rétention, c'est l'ennui total, il n'y a rien à faire.
Vous parliez juste avant d'assignation à résidence, ou alors du coup d'incarcération dans ces CRA. C'est sous quel motif la police ou le tribunal administratif peut décider ou non de l'incarcération d'une personne sans papier dans l'un de ces centres?
Alors du coup, pour les centres de rétention, on parle pas d'incarcération. Là, quand je parle d'incarcération, c'est des personnes qui potentiellement ont commis d'autres délits. Je les connais pas, ces délits, mais ce qui peut aussi se passer régulièrement, c'est que les personnes font un circuit entre centre de rétention et prison, parce que quand on essaye de les expulser, si elles se débattent, si elles crient très fort, si elles tentent de se débattre physiquement, très souvent la police réussit à les contraindre et à quand même les embarquer, mais quand ils n'y arrivent pas, ils envoient les personnes devant un juge, parce que le fait de s'opposer à sa propre expulsion est puni par la loi, comme le fait de s'opposer à l'expulsion de quelqu'un. Et on entendait beaucoup parler sous Sarkozy de ces cas-là, de personnes dans des avions qui s'opposaient à une expulsion et qui étaient punies pénalement. Et là, c'est le cas de beaucoup de retenus qui, quand on cherche à les expulser au milieu de la nuit et qu'on les envoie du centre de rétention à Roissy, par exemple, vont s'opposer et du coup vont être traduits devant un tribunal et être condamné, donc partir en prison. Et là, la nouveauté, et on a vu une personne dans ce cas-là samedi, c'est que s'opposer à sa propre expulsion, ça peut aussi être, en ce moment, refuser un test Covid. Et donc, samedi, une personne présente allait partir aujourd'hui du centre de rétention à la prison parce qu'elle avait refusé de subir un test Covid. Parce que dans le fond, évidemment, elle ne veut pas être expulsée. Et voilà, donc on l'accuse de s'opposer à l'expulsion, d'entraver la procédure, et donc elle va partir en prison.
Et donc un simple refus d'un test Covid, ça peut amener à ce genre de situation qui est complètement improbable.
Bah, complètement improbable, et évidemment vécu par les personnes comme un acharnement total. C'est-à-dire, au début, elles n'ont pas de papier, puis elles se retrouvent là, puis elles se retrouvent dans des situations de violence souvent avec la police, puis elles se retrouvent en prison, et après peut-être cette personne, elle retournera encore en rétention parce qu'on essaiera à nouveau de l'expulser. Et au-delà de la question économique, qui est évidemment absurdissime, politiquement, c'est inacceptable que ces personnes se retrouvent de toute façon privées de liberté.
J'avais deux petites, j'allais dire, dernières questions sur les explications, justement, sur ce que c'est qu'un CRA. Vous disiez juste avant que ça peut aller jusqu'à 90 jours d'enfermement dans ces centres de rétention administrative. Est-ce que ça arrive que, justement, ces 90 jours, la loi l'oblige, mais est-ce que ça arrive que ce soit dépassé par l'administration, que l'administration laisse délibérément des personnes plus de 90 jours dans un centre de rétention?
Alors, non. Mais 90 jours, c'est assez récent. Ça date du dernier changement de loi signé Gérard Collomb en 2018, qui a doublé le temps de rétention. Et donc, ce temps de rétention, il est passé de 45 à 90 jours. Donc, 90 jours, 3 mois, c'est quand même une durée assez longue pour que, normalement, l'administration puisse s'organiser pour rendre concrète l'expulsion. Après, il y a énormément de garde-fous et de volonté politique de la part du ou de la défenseur des droits, de magistrats, d'avocats qui se battent pour les droits des étrangers, et aussi également beaucoup au niveau européen, puisque la France est quand même très souvent pointée pour outrepassé des recommandations européennes sur la question du droit des étrangers. Et donc c'est fréquent que l'Europe s'oppose aussi à ce que la France puisse encore contraindre plus les étrangers. Mais sur les 90 jours, non, c'est heureusement, c'est déjà très long, heureusement, oui. C'est pas dépassé.
Alors, il y a quelques semaines, moi, je m'étais rendu devant le tribunal administratif de Rennes à une mobilisation en soutien à la famille Nemcy Drewitz, dont les parents et le frère aîné sont victimes d'une OQTF, donc une obligation de quitter le territoire. Les soutiens présents m'avaient expliqué l'arrestation du papa par la PAF, donc la police aux frontières, qui s'était déroulée à la sortie des Restos du Cœur. Alors, ça m'a beaucoup choqué. Et ma question, c'était cette espèce de rafle, hein, pour reprendre l'expression que j'ai entendue sur place. Est-ce que c'est un procédé auquel beaucoup de personnes sans papier ont été confrontées ?
Alors, c'est un peu par vague, je dirais. En tout cas, je parle de ce dont nous, au collectif, on est au courant. C'est désastreux. C'est-à-dire, là, il y en a de plus en plus. Et il y a le Covid, donc on sait que la précarité, elle est grandissante et que les gens vont d'autant plus dans ces endroits caritatifs, donc aux abords des Restos du Cœur, de la Croix-Rouge, du Secours Populaire. Et il y a la police aux frontières qui cueille voilà, les personnes sans papier quelques mètres plus loin et qui fait effectivement ce qu'on peut appeler des rafles aux alentours de ces associations caritatives. Donc nous, au collectif, on a déjà fait plusieurs fois depuis, c'est pas nouveau, malheureusement c'est pratique, depuis une dizaine d'années, on a fait plusieurs actions autour de ça pour dénoncer cette décision du procureur, parce que ça vient du procureur de la République qui diligente des contrôles dans une zone là, donc autour des associations caritatives. Mais bon, pour autant, ça n'a pas beaucoup fait bouger les choses et ça fait surtout que les gens ont peur d'y aller. Et du coup, voilà, font quoi ? Se laissent mourir de faim C'est terrible.
Alors pour revenir un peu dans l'actualité de votre collectif, samedi dernier, vous avez mis en place donc un parloir sauvage pour échanger avec les personnes enfermées au CRA de Rennes-Saint-Jacques. Comment ça s'est passé et comment ça se déroule de cette mise en place d'un parloir sauvage ?
Déjà, les parloirs sauvages, on les fait donc depuis le début et on réussit pour l'instant à les faire et à contourner le centre de rétention donc qui se trouve sur un terrain militaire pour aller parler aux retenus. Donc on est face à des grilles, des très hautes grilles avec des barbelés. Derrière ces grilles, il y a un long couloir dans lequel en général sont positionnés les policiers de la police aux frontières donc qui gardent le centre. Et après ce grand couloir, une autre grande grille est derrière les retenus. Donc on est à peu près à 5 mètres d'eux. Et nous, on est positionnés sur des escabeaux parce que depuis 2007, le centre il a beaucoup changé. Petit à petit, il y a eu plus de barbelés, plus de barrières aussi entre l'intérieur et l'extérieur et donc pour nous plus de difficultés à pouvoir parler avec les retenus. Et donc il y a des très hautes bâches qui font qu'on doit être sur des escabeaux. Donc on leur parle, on leur explique qui on est et on leur explique le but de ces parloirs qui est de faire sortir la parole, c'est-à-dire de ne pas les laisser seuls uniquement avec la police et aussi de leur faire un petit peu de bien en leur montrant que en France il n'y a pas que des gens qui sont d'accord avec ce système et donc leur montrer qu'on résiste et qu'on peut notamment à travers les médias faire connaître ceux qui vivent à l'intérieur.
Pour revenir un peu à ce que vous disiez juste avant, à l'origine de votre action de parloir sauvage, il y a une situation d'urgence dans ces centres de rétention administrative, comme vous l'avez rappelé d'ailleurs dans votre communiqué. Beaucoup de retenus dénoncent et se révoltent contre les conditions d'enfermement. Il y a eu les tentatives de suicide, comme on l'évoquait en début d'interview. Il y a eu aussi des actes d'automutilation, des grèves de la faim. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces conditions d'enfermement dans les centres de rétention administrative et la situation au quotidien des retenus ?
Je pense que l'incompréhension de pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait là, surtout pour ceux qui, par ailleurs, ont pu, commettre des délits et être punis et déjà enfermés pour ça, évidemment, le fait d'être enfermé pour n'avoir rien fait du tout, et vous savez aussi l'absurdité et l'arbitraire des lois pour pouvoir obtenir des papiers en France. Alors, beaucoup de gens qui devraient être protégés au nom de l'asile politique, qui devraient être réfugiés, ne le sont pas. Beaucoup de gens qui sont mariés ou ont un travail ou sont intégrés, comme le veut l'administration, n'obtiennent pour autant pas de papiers. Et aujourd'hui, les cases pour pouvoir être régularisées, elles sont toutes petites. Donc, évidemment, les gens ne comprennent pas pourquoi certains sont là depuis des années, ont une famille, travaillent, ont toujours tout fait pour essayer d'être régularisés, et certains ont eu des papiers, puis ils les ont perdus, et se retrouvent là. Et donc, la colère, elle est énorme, parce que, il nous le disait samedi, c'est du pur racisme. C'est juste parce qu'on est étranger. C'est juste parce qu'on est étranger, parce que sinon, en termes de mode de vie, de rapport voilà, aux autres, à la France et tout ça, sachant que beaucoup viennent de pays, d'ex-pays colonisés par la France, ils ont toujours parlé français, voilà. Donc là, ça les renvoie juste à ça, à leur statut d'étranger, et donc la colère, elle est très forte. Ça, c'est une chose et qui, je pense, est vraiment traverse absolument toutes les paroles qu'on entend quand on fait ces parloirs. Par ailleurs, il y a aussi, on peut le dire, un traitement différencié et donc raciste dans les centres de rétention par rapport aux centres de détention sur les conditions. C'est pas du tout pour mettre en concurrence ou dire que la situation est rose dans les centres de détention, pas du tout. Mais il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a rien dans un centre de rétention. Il n'y a rien en termes d'occupation. Là, samedi, par exemple, il dénonçait le fait qu'il n'y avait pas de chauffage, que ça ne fonctionnait pas, et que il y a vraiment des rapports avec la police, à Rennes comme dans les autres centres de rétention, qui sont tendus. Et eux, ils dénoncent vraiment, pas de la part de tous les policiers, mais de la part d'une partie des policiers, notamment d'une équipe de police, des provocations, des violences physiques, des propos racistes, et une sorte de harcèlement quotidien, et voilà, et ça les rend fous, et ils ont évidemment aucune prise là-dessus, à part se taire pour ne pas subir ça. Donc la possibilité de révolte, elle est infime, et donc la révolte, elle se matérialise ça va de la grève de la faim, effectivement, à des suicides, à des tentatives de suicide et des suicides.
Parce que ce sont des policiers qui encadrent à l'intérieur des centres de rétention administrative ?
Tout à fait. C'est la police aux frontières. Ça n'a pas toujours été le cas. Au début, au centre de rétention à Rennes, c'était la gendarmerie. Et c'était aussi d'autres rapports, du coup, avec les retenus. Aujourd'hui, c'est la police aux frontières qui est présente. Donc, il y a eu un bras de la police qui est formé pour, comme son nom l'indique, reconduire à la frontière et pour arrêter le plus d'étrangers possible, et qui est aussi, on le sait par des témoignages d'anciens policiers ou des travaux de journalistes, bercés aussi dans un racisme pur, et les relations sont très 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 tendues avec eux.
Mais c'est quand même assez étrange que ce ne soit pas un organe indépendant qui s'occupe justement de ces centres de rétention administrative, que ce soit les personnes qui arrêtent et qui mettent en centre de détention, en retenue, les personnes qui s'occupent aussi de l'encadrement de ces centres. Ça paraît assez étonnant quand même comme façon de fonctionner.
Je pense que pour le ministère de l'Intérieur et les ministères des différents gouvernements et l'esprit depuis longtemps maintenant, mais voilà, pour ces politiques migratoires qui sont racistes, même si tous les gouvernements s'en défendent, je pense qu'il y a pour eux une cohérence à faire encadrer les centres de rétention par la police aux frontières.
Bah, une petite dernière question du coup avant de vous laisser, Gabriel. Samedi, il y avait donc le parloir sauvage. Quels sont les autres types d'actions que vous pouvez mener avec le collectif de soutien aux personnes en sans-papiers?
Avant le Covid, nous faisions beaucoup d'actions à la fois sur des situations locales. Donc nous, on fait aussi des permanences juridiques. Donc on croise, c'est un petit peu l'entrée par laquelle les personnes sans papier rejoignent le collectif, qui est un collectif mixte hein, de personnes sans papier et de soutien. Quand des situations de personnes bloquaient, on pouvait être amené à aller voir la préfecture, la mairie, sur les questions de papier, mais aussi souvent de logement. Ou alors on peut essayer d'agir contre des politiques nationales, donc des changements de loi comme celui de 2018 avec la loi Collomb, ou alors effectivement des contrôles aux faciès aux abords des associations caritatives, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Donc c'est très large, ça va de la présence dans l'espace public pour dénoncer ces politiques, dénoncer le racisme, les clichés sur l'immigration, à des occupations de préfecture en passant par des manifestations ou autres.
Comment est-ce que justement les auditeurs ou auditrices pourraient vous rejoindre ?
Eh bien, nous avons un site qui est SP comme sans papier 35.org. On a également un Facebook, collectif de soutien aux personnes sans papier de Rennes. Et on peut nous contacter préférentiellement par le Facebook, et on a en ce moment, comme tout le monde, des réunions quand on peut se retrouver, mais moins régulières que d'habitude, où on se retrouvait toutes les semaines depuis 20 ans maintenant.
Super, et on partagera tout ça avec le podcast de l'émission. Merci beaucoup, Gabriel, d'avoir accepté notre invitation.
Merci
sur l'antenne de Syllab. Je le rappelle, vous êtes membre du collectif de soutien aux personnes sans papier de Rennes. Merci à vous.